Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le président de l'Éveil Océanien, Milakoulou Tokoumouli. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez publié un long texte, un long communiqué, en tout cas l'Éveil Océanien, après la réunion de vos instances. C'était vendredi dernier, je crois. Nous allons revenir sur votre analyse et vous écrivez notamment « Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une simple crise institutionnelle ». C'est un malaise profond, un manque de courage, d'humilité, de responsabilité, de direction, de parole tenue, et surtout un manque de respect envers les Calédoniennes et les Calédoniens qui attendent autre chose que des postures. Qu'est-ce que vous visez avec ce jugement, Milakoulou Tokoumouli, selon vous, qui manque de respect aux Calédoniens aujourd'hui ?
Je crois que la situation que nous vivons aujourd'hui, du mandat qui a commencé en 2019, après l'organisation du premier référendum, un contexte extrêmement difficile, après l'insurrection de mai 2024. Certains ont tenté de dire que c'était la responsabilité de l'État d'avoir avancé, ce qui n'est pas faux. Mais je crois qu'il faut chacun prenne sa part de responsabilité. Et bon, je l'ai toujours dit, et je le redis sous votre antenne, les premiers responsables de cette situation, c'est la classe politique calédonienne.
Dans son ensemble, c'est une responsabilité collective.
Dans son ensemble, mais parce qu'il nous appartenait à nous, les élus de ce mandat, d'écrire une suite à l'accord de Nouméa. Et je ne vais peut-être pas raser le président de la République, mais c'est difficile parce que la Calédonie a toujours fonctionné dans le cadre d'un accord. On savait ce qui allait se passer après ce mandat. On pouvait transférer telle compétence. On pouvait organiser un référendum. Et puis, quand on a organisé les trois consultations, une fois que c'est terminé, ben, il n'y a plus de suite. Et donc, il faut l'inventer, cette suite. Et parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de suite, ben, on a été incapable de sortir la Nouvelle-Calédonie, de proposer une nouvelle histoire aux Calédoniens. Et donc c'est ça qu'on pointe du doigt.
Alors vous essayez de le faire, hein, quand même. Vous êtes signataire de l'accord de Bougival, on va y revenir plus en détail. Mais tout de suite, l'actualité immédiate, l'actualité législative, c'est l'examen de la proposition de loi organique qui reporte les élections provinciales à juin 2026 pour permettre notamment justement la mise en œuvre de Bougival. C'est le troisième report de ce scrutin. Vous nous disiez un mandat qui a débuté en 2019. Vous êtes favorable néanmoins à ce report des élections provinciales ?
Écoutez, quand le débat c'est invité dans notre hémicycle le 15 septembre dernier, l'Éveil Océanien s'est positionné en faveur d'un report des élections provinciales. Mais peut-être pour nuancer, parce que vous dites que le report est objectivé par la poursuite ou la mise en œuvre de Bougival. Or, Bougival ne fait pas consensus entre l'ensemble des partenaires politiques. Nous, on dit simplement que pour sortir notre pays du corner dans lequel il se trouve, il vaut mieux le sortir avec un consensus politique. Et pour avoir un consensus politique, il faut encore du temps pour dialoguer. À minima, il faut dialoguer. Bon, je pense qu'on y reviendra, mais il faut encore du temps. Si on n'y arrivait pas, deux choix vont s'offrir à nous. Soit on va avec Bougival tel quel, ce qui aurait des conséquences, je ne sais pas lesquelles, mais il pourrait y avoir des conséquences pour notre pays. Organiser les élections provinciales, c'est une possibilité aussi. La meilleure solution, c'est de dire ben, on arrive à construire un consensus à partir de Bougival. Et nous, c'est l'option qu'on a choisie, parce qu'il faut une stabilité politique. Il faut construire une suite à l'accord de Nouméa pour offrir des perspectives aux Calédoniennes et aux Calédoniens.
Vous avez suivi ces dernières heures, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont s'est passé le débat parlementaire, enfin l'Assemblée nationale, avec l'adoption de cette motion de rejet préalable qui renvoie le texte en commission mixte paritaire? Il faut essayer de faire avancer les choses et de pouvoir, si possible, reporter les élections qui n'avaient pas lieu le mois prochain.
Bah, on savait que ça allait être difficile à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, parce que la proposition vient du Sénat et 6 groupes ont déposé cette proposition. À l'Assemblée nationale, c'est difficile. On a vu la France insoumise qui a déposé pas loin de 2000 amendements pour essayer de retarder le débat. Leur positionnement est clair. Reporter les élections pour faire avancer Bougival créerait des désordres dans le pays. Bon, j'ai déjà répondu à cette question. Le report doit nous permettre de dialoguer et de parvenir à un consensus. En tout cas, c'est la ligne que nous avons choisie. Maintenant, on verra ce qui va se passer en commission mixte paritaire ce lundi. On espère, nous, qu'il y aura un report qui sera acté. Pas pour mettre en œuvre Bougival, tel quel. Peut-être pour l'améliorer et faire en sorte qu'il devienne un consensus.
Pour se donner le temps de la discussion.
Oui, et puis après, il faut discuter. Et puis, soit on a un consensus sur un accord, soit on a un consensus sur le désaccord. Et puis, chacun prendra ses responsabilités à ce moment-là.
Pendant qu'on est dans l'actualité législative, le prochain texte, c'est la loi constitutionnelle. Le projet a déjà été présenté au Conseil des ministres. Sincèrement, vous pensez que ça pourrait être examiné avant la fin de l'année avec la réunion du Congrès de Versailles? C'est ce qu'a souhaité le Premier ministre.
Bon, d'abord, en termes calendaires, non, ça ne marche pas. Déjà, le calendrier qui nous a été présenté lors de l'installation de comités de rédaction était déjà très optimiste, avec un congrès de Versailles prévu le 15 décembre. Mais ça, c'était dans le cas où le projet de loi constitutionnelle sortait du Conseil des ministres le 17 août, il me semble. Ce n'est pas le cas, il est sorti un mois plus tard, donc forcément, le calendrier sera totalement décalé. Après, sur l'aspect politique, quand on regarde, quand on voit les difficultés sur le projet de loi organique sur le report des élections provinciales, je vous laisse imaginer sur un projet de loi constitutionnelle, sur un accord qui ne fait pas consensus, et puis je ne parle même pas du congrès de Versailles qui serait réuni pour adopter le texte au 3/5.
Cette instabilité politique nationale, c'est un handicap de plus pour la mise en œuvre de Bougival et pour trouver une issue à la situation de la Nouvelle-Calédonie.
Ah, mais ça c'est sûr, ça rajoute du chaos au bordel que nous connaissons dans notre pays. Ça n'arrange pas les choses. Ça. C'est pour ça que la solution ne peut pas venir de Paris. En vérité, une fois que les partenaires politiques calédoniens sont d'accord, il peut y avoir de l'instabilité au niveau national, mais tant que nous, on est d'accord entre nous, et puis on va attendre que ça se stabilise, mais après les choses vont aller beaucoup mieux. Le dossier calédonien est instrumentalisé aujourd'hui. Voilà.
Mais quand même, dans ce contexte, la présence à Matignon de Sébastien Lecornu, qui connaît bien la Nouvelle-Calédonie, ça peut être un atout ou c'est un handicap selon vous, parce qu'il ne fait pas l'unanimité non plus ici, on le sait?
Il ne fait pas l'unanimité. Je dirais que c'est une bonne nouvelle pour les non-indépendantistes qui l'ont connu quand il était ministre des Outre-mer entre 2020 et 2022. Il n'a pas laissé un bon souvenir du côté des indépendantistes. Je crois qu'il faudra le juger dans sa manière dont il va traiter le dossier calédonien. Parce qu'on a bien compris avec ce gouvernement Lecornu 2 que le ministère des Outre-mer est redescendu dans la hiérarchie. On n'a plus un ministère d'État pour dire on fait confiance aux Outre-mer, à la population ultramarine. Là, c'est totalement différent. Quels sont les pouvoirs de la nouvelle ministre par rapport à la volonté de Sébastien Lecornu qui est Premier ministre? Ça, on ne sait pas. On verra dans les prochaines semaines.
Et vous auriez préféré que Manuel Valls reste? Vous aviez de bonnes relations avec lui, vous trouviez qu'il faisait un bon travail
D'abord, oui, je crois que personne ne peut dire qu'il a entretenu de mauvaises relations avec Manuel Valls. Peut-être au début, à Deva, où certains non-indépendantistes se sont écorchés avec le ministre. Mais je pense, j'ai vu, j'ai observé, à Bougival, on a créé une relation, l'ensemble des partenaires ont créé une relation amicale avec le ministre. C'est normal, on passe des épreuves ensemble, on apprend à se connaître, on s'engueule, c'est tout à fait normal. Et donc ça, c'est important parce que c'est la confiance qu'on peut avoir les uns et les autres qui comptissent pendant ces 10 derniers mois, parce qu'il est arrivé au mois de décembre. Pendant 10 mois, il était notre interlocuteur principal. Je rappelle quand même qu'il a remis les partenaires autour de la table, ce qui n'était pas arrivé depuis 2-3 ans. Plus personne ne pouvait se parler de manière officielle. Donc tout ça, il a réussi, il a fait des bilatérales, on a fait des séquences de négociations en Deva. Et donc il a obtenu, par la force des choses, une expérience et une expertise, non seulement du dossier calédonien, mais des sensibilités proches des mouvements politiques. Donc Bougival est sorti. Au moment où les textes vont passer au Parlement, où il y a un dialogue qui doit être réouvert sur le dossier, eh bien, à Paris, ça ne dépend pas de nous, mais on change les acteurs. Bien sûr que c'est devenu compliqué. Et ça enlève en rien les qualités que peut avoir la nouvelle ministre. Je dis simplement qu'on a une rupture de la continuité de ce qui est fait depuis maintenant un an.
Alors, vous y faites allusion. Vous avez participé aux discussions sur l'avenir institutionnel. Vous étiez à Deva, puis vous étiez ensuite à Bougival. Dans les deux cas, vous étiez d'accord. Vous étiez partisan du projet présenté par Deva. Rien n'a été signé, mais il y avait un projet mis sur la table par le ministre. Vous êtes signataire de l'accord de Bougival. Pourtant, les deux projets sont très différents, non? Comment est-ce que vous pouvez être d'accord? Pourquoi vous êtes d'accord avec les deux? Parce que vous assumez qu'il faut un accord de toute façon, quoi, quel qu'il soit.
Mais d'abord sur Deva. Deva, le ministre, a présenté un projet qui est quasi très proche de ce que nous, on propose. C'est-à-dire de...
C'est un État associé, il l'assume, lui.
Oui, mais c'est un État associé qui est décidé maintenant. C'est l'accord, on le valide, les Calédoniens le valident. Mais c'est un État associé qui est mis en œuvre à une date qu'il faudrait que les partenaires choisissent. Et puis, la forme de l'État associé, c'est le curseur entre la souveraineté calédonienne et ce qu'on continue à laisser entre les mains de la France. C'est ça le projet. Ça, c'est Deva. Est-ce qu'il y avait un consensus à Deva ? Non. Pourtant, il y avait une majorité de partenaires politiques qui auraient pu se dire on y va, on avance sur ce projet. Non, il n'y a pas de consensus. Avec nos partenaires, les loyalistes et le rassemblement, donc on arrête la discussion. À Bougival, c'est autre chose. À partir du moment où les partenaires les plus éloignés, que sont les loyalistes rassemblements et le FLNKS, disent on est d'accord sur ce projet d'accord, je veux dire, nous, on est déjà dans le consensus par notre positionnement de centriste et de modéré. Donc on va faire quoi ? Si les extrêmes arrivent à se mettre d'accord, on va dire qu'on n'est pas d'accord parce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord. Non, nous, on essaie de conforter. Mais au-delà de ça, peut-être qu'on y reviendra, mais dans le fond de Bougival, je trouve que le paradigme, même s'il est différent du paradigme de Nouméa et de Matignon, c'est un paradigme qui est assez innovant et intéressant.
Oui, justement, vous vouliez, après Deva, vous souhaitiez un avenant à l'accord de Nouméa, en fait, pour poursuivre les discussions et pour trouver un accord. Est-ce que Bougival, c'est un peu un avenant à l'accord de Nouméa? Malgré tout, même si c'est très différent, mais il y a cette petite phrase qui dit que les dispositions de l'accord de Nouméa qui ne sont pas contraires à l'accord de Bougival demeurent en vigueur. Donc en fait, c'est quand même... Est-ce que c'est une continuité de Nouméa pour vous, Bougival ?
Non, absolument pas. De toute façon, Bougival, c'est un emboîtement de piliers qui sont en discussion depuis 3 ans. Corps électoral, autodétermination, compétences régaliennes, etc., etc., etc. Donc Bougival, c'est un assemblage arrêté à l'instant T qui dit, ben voilà comment on fait. La difficulté qui persiste depuis toujours, c'est le pilier central, c'est comment on gère la décolonisation. Parce que le cadre des discussions, il est assez simple à comprendre. On ne discute pas sur un oui, on discute sur 3 non. OK, la troisième consultation est contestée et peut-être contestable pour certains. Bon, soit. Mais les consultations n'ont pas abouti à un oui. Donc ça implique forcément que le futur statut de la Nouvelle-Calédonie va se dérouler au sein de la République française. Sinon, ça veut dire qu'on a fait voter les Calédoniens 3 fois pour rien. Vous êtes d'accord avec ça? OK, tout le monde a acté ça. Deuxième chose qu'il faut regarder, est-ce que la décolonisation s'arrête ? Que certains peuvent dire, il y a eu 3 fois non, c'est terminé. Mais non, la décolonisation se poursuit. Et c'est la méthodologie pour décoloniser, c'est là le point d'achoppement, le point de rupture. Parce que pour décoloniser, on peut dire, sinon on organise un nouveau référendum. Et dans ce cas-là, on se pose la question avec les conséquences.
Décolonisation, c'est toujours un terme ambigu. Décolonisation, c'est pas indépendance. Donc décolonisation, c'est un nouveau statut qui peut être au sein de la République.
Oui, mais ça, c'est... Peut-être vous qui le dites comme ça, le FLNKS, lui, décolonisation, c'est un statut qui mènerait à l'indépendance.
Non, mais l'ONU dit pas ça, quoi. Je me réfère à l'ONU, en termes de décolonisation.
Mais des partenaires politiques, il n'y a pas l'ONU, oui. Ce sont les partis indépendantistes et non indépendantistes. Donc, le cadre est assez simple, et tout le monde a accepté ce cadre. Maintenant, nous, on était sur, arrêtons de mettre des référendums au bout, ou les décider au bout, décidons maintenant de la fin du film. C'était ça, Deva. Et donc, en vérité, chacun voulait imposer une solution définitive. Pour les non-indépendantistes, la solution définitive, c'est au sein de la République française. Mais les indépendantistes ne peuvent pas accepter ça. Les indépendantistes disent, mais la solution définitive, c'est l'indépendance. Les non-indépendantistes disent, mais écoutez, il y a 3 fois non, vous rigolez, ça ne marche pas. Donc, on a accepté l'idée qu'on ne pouvait pas, à ce moment-là de notre histoire, dire, on a une solution définitive. Donc, à partir de là, on est sorti de Deva et on a dit, mais si on ne peut pas avoir une solution définitive, soyons humbles, actons pour une solution nouvellement transitoire. Nouvelle période de stabilité, 15 à 20 ans, nouveau référendum. Là où il fallait se mettre d'accord, c'est de dire, on va éviter de faire les référendums de 18, 20 et 21 question de rupture dans la France ou dehors de la France, est-ce qu'on peut construire une question qui ne nous éloigne pas trop les uns des autres ? Bon, c'était ça qu'il fallait construire, et c'était ça qu'on avait proposé. Et d'ailleurs, c'est ce que le président de la République dit à l'ouverture du sommet de la Nouvelle-Calédonie en France, il dit « Nouvelle période de stabilité de 15 à 20 ans, vous faites les ajustements sous le corps électoral, etc. » Et puis après, vous posez une question, et il a ouvert la voie à la souveraineté avec la France. Donc, en somme, c'était ça le projet. Mais Bougival, c'est autre chose. Bougival, c'est... On passe d'une décolonisation, je dirais, passive, où on a une date butoir et on organise un référendum avec un corps électoral, etc., à... Ben non, c'est plus ça qu'on fait. Ça veut dire qu'il faut décider. Il faut décider. D'abord, il faut décider ensemble que la décolonisation se met en marche. Le ensemble, c'est les 36 sièges au Congrès, avec un corps électoral qui a bougé et avec une répartition des sièges qui a totalement évolué. Et donc là, ça veut dire que la bataille, elle se fait dans le pays, au niveau institutionnel, en termes des politiques publiques, pour convaincre les uns et les autres, pour avoir suffisamment de sièges au Congrès. Et on voit bien que, comme il n'y a pas de majorité, on est obligé d'aller chercher les autres pour dire, ben, on va faire les choses ensemble pour compter une compétence régalienne, ou pas d'ailleurs. Donc c'est en ça que le paradigme a totalement changé. Ben, on est passé du vouloir faire ensemble à on est obligé de faire ensemble. Donc on est passé de décolonisation passive à une décolonisation active.
Bon, ben alors expliquez-nous pourquoi, puisque vous étiez à Bougival, pourquoi le FLNKS a signé dans un premier temps ? Est-ce que ça leur convenait quand les membres de la délégation FLNKS ont signé, alors maintenant ils disent que c'était un projet d'accord, pas un accord. Comment vous interprétez cette manière dont les choses se sont déroulées, avec d'abord une signature et ensuite un retrait de signature ?
Mais d'abord, le FLNKS c'est un mouvement de libération différent, un fonctionnement qui est le sien, que chacun pourra apprécier. Nous, on a été mandatés par nos militants sur un projet décolonisation, que ce soit l'avenant à l'accord d'Ouméa ou la souveraineté partagée. Les militants m'ont mandaté pour signer un projet d'accord ou un accord. C'est ma prérogative. Et je crois que l'ensemble des partenaires étaient dans ce cadre-là. Le FNK, c'est un mouvement qui fonctionne différemment. Et ils ont dit qu'ils n'allaient rien signer à Paris et qu'ils allaient faire un retour aux structures pour signer. Quand on a signé Bougival... moi, j'ai signé un projet d'accord. S'il y avait des évolutions à apporter au projet d'accord, pas de difficulté, la décision est déjà prise chez nous. Chez FNKS, c'est différent. Mais ce qui a été signé à Paris, à Bougival, c'était un projet d'accord et la signature devait se dérouler un mois plus tard à Nouméa, avec la venue du président de la République, etc. Une vraie signature en grande pompe, signature officielle de l'accord de Bougival, le temps de laisser au FLNKS de faire un retour à ses structures. C'est ce qui a été convenu à Paris.
Et donc le retour s'est mal passé parce que c'était la même chose pour les autres. Les partisans de la France, de la même manière, disaient ils avaient fait des concessions aussi, la création d'un État, la création d'une nationalité, et ils devaient aussi aller voir leur base. On a l'impression qu'eux ont vendu leur accord à leur base et que le FLNKS n'a pas vendu son accord à sa base.
Mais d'abord, je crois que le premier tsunami, c'est le fait d'avoir signé après avoir dit qu'ils n'allaient pas signer. Je pense que là, c'est une première étape, un premier écueil. Deuxième écueil, c'est dans la communication, dans les explications, entre le moment où ça a été signé et le moment où il y a eu l'organisation ou la réunion des structures pour expliquer. Je crois que la vague était déjà très haute, accentuée, bien sûr, par la communication de l'autre côté, hein, du camp d'en face, parce qu'ils ont fait des concessions aussi.
Du camp d'en face, il y a l'UNI aussi, quand même, qui est indépendantiste et qui défendait Bougival. Donc,
bien sûr.
Ça aurait pu aussi apporter de l'eau au moulin du FLNKS. Ils auraient pu dire, vous voyez, les indépendantistes de l'UNI soutiennent ce projet.
Ben, il faut croire que ça n'a pas...
Ça n'a pas marché.
Non, ça n'a pas marché, ça n'a pas suffi. C'était un problème de forme. Et puis, je crois que la forme a empêché d'aller regarder dans le fond. Maintenant, ça ne fait pas consensus... Et donc, il y a un tel rejet de Bougival aujourd'hui. Néanmoins, est-ce que ça doit nous empêcher de nous réunir et de dialoguer ? Moi, je pense que non.
Ah, vous dites même qu'il faut le faire. Vous dites qu'on ne peut pas faire sans le FLNKS et qu'il faut que le FLNKS accepte de reprendre le dialogue afin de construire le consensus final. on n'en est pas là pour l'instant, puisque hier, dans un communiqué, le bureau politique du FNCS dit qu'il faut abandonner le projet d'accord de Bougival et qu'il ne reviendra pas à la table de discussion. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous pouvez jouer un rôle ? Est-ce que vous leur parlez ? Est-ce que...
D'abord, il faut rappeler que quand on est rentré de Paris, de Bougival, on était les premiers à dilater Bougival. C'est-à-dire dilater Bougival, c'est-à-dire permettre l'évolution ou l'amélioration ou amender Bougival. Parce que certains de nos partenaires disent il n'y a pas un mot, il n'y a pas une virgule qui bouge, c'est Bougival du sol au plafond.
Il ne faut pas changer les équilibres parce qu'ils sont quand même assez fragiles.
Oui, mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de dire au FNCS de revenir si on ne peut rien changer. Sinon, ça a un sens. Nous, on a commencé à dire ça, ce qui nous a valu quand même quelques griefs de la part de nos camarades. Puis au final, le 15 septembre dernier, quand on parle du report des élections, et même j'ai entendu notre député de la première circonscription à l'Assemblée nationale dire « donner du temps pour discuter de Bougival ». Bien sûr, moi je suis content qu'on soit dans cette phase-là. Mais parce que la phrase complète, c'est qu'il n'existe pas de consensus sans le FLNKS, comme il n'existe pas de consensus sans le RPCR ou les héritiers du RPCR. Matignon s'est fait comme ça, Nouméa aussi comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'on va faire Bougival comme ça ? Non, ça ne marche pas. Et la solution pour qu'il y ait un consensus, elle ne viendra pas de Paris, elle viendra de notre part. Maintenant, le FLNKS dit qu'on ne veut pas de Bougival, mais ça c'est une chose. Mais Bougival, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un assemblage. Mais il faut partir de Bougival et le faire évoluer dans sa structure. C'est ça qu'il faut faire. Si vous dites que vous repartez de zéro, mais il n'y a plus personne qui voudra revenir à la table des discussions et négociations. Donc tout le monde, l'ensemble des partenaires ont appelé au dialogue, le FLNKS n'a pas répondu favorablement. Je pense qu'il faudra attendre que le report soit décidé ou pas à Paris. Si finalement il n'y a pas de report, on organisera les élections provinciales, on aura 30 jours pour préparer ça, ce qui n'est pas vraiment les conditions optimales. Mais
vous êtes prêts, vous ?
Je crois qu'on est prêts comme l'ensemble des formations politiques, c'est-à-dire pas vraiment prêts du tout. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas les élections qui sont le plus important. Soit il y a un report, et dans le report, il y a deux voies possibles. Soit les FLNKS et la CCAT vont commencer à se mobiliser et d'une manière ou d'une autre finiront par enterrer le texte, par une mobilisation, ou soit il y a un dialogue qui est engagé à partir de Bougival et on essaye d'arriver à ce fameux consensus. C'est la voie que nous, on choisit, parce que c'est toujours par le dialogue qu'on y arrivera. Mais de toute façon, s'il y a une mobilisation, des émeutes, etc., tout ça va s'arrêter, puis au final, on reviendra à un moment ou à un autre pour dialoguer. Je pense peut-être qu'on peut éviter cette case et revenir à la voie du dialogue.
Vous craignez quand même le rapport de force, un retour à des émeutes, à d'une mobilisation sur le terrain. Vous pensez que le climat s'y prête pour l'instant ?
Je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal, Elisabeth. Je sais que les Calédoniens sont fatigués pour diverses raisons. Il y en a qui ne mangent pas à leur faim, qui sont en grande difficulté. Est-ce que c'est un inhibiteur, la situation économique et sociale, ou est-ce que c'est un catalyseur ? L'avenir nous le dira.
Alors justement, cette situation économique et sociale, comment est-ce qu'on y fait face ? Alors dans Bougival, il y a aussi tout un volet sur la refondation économique et sociale. Elle est mise en œuvre, elle est travaillée aujourd'hui par la commission interministérielle dirigée par Claire Durieux. Est-ce que la méthode mise en place vous paraît efficace ? On a l'impression pour l'instant de tourner un peu en rond et qu'il n'y a pas vraiment de redémarrage de relance économique. C'est votre sentiment ou non ?
Moi, je pense que le travail que fait Claire Durieux est un travail qui nous permettra de sortir de là. C'est vrai qu'on a l'impression de tourner en rond parce que les tentatives pour essayer d'organiser ce genre de groupe de travail a été fait à plusieurs reprises. Mais pour nous sortir de cette situation dans laquelle on se trouve, pour nous, les Vélocaniens, c'est clair, il y a trois piliers. Un, c'est la stabilité politique. Parce qu'une stabilité politique fera que celles et ceux qui sont sur le point de partir vont rester. Et celles et ceux qui hésitent à investir en Nouvelle-Calédonie finissent par investir. Deuxième pilier, c'est un plan de financement. Dans ce plan de financement, il y a deux volets. Il y a l'investissement, parce qu'il faut politique de grands travaux pour relancer l'investissement. Et il y a le plan de financement des collectivités, parce que vous l'aurez remarqué, on a une chute des recettes fiscales dans notre pays qu'il va falloir compenser. Ce plan de financement, c'est-à-dire à la fois d'investissement et de financement des collectivités publiques, ça doit être un plan quinquennal. Parce que la Calédonie ne va pas se redresser en l'espace de 2 ans, il faudra à minima 5 années. À ce plan de financement quinquennal, il faut lui adosser le 3e pilier, qui est le plan de réforme dans notre pays. Ça, c'est important. Il faut réformer le RUAM, je suis venu sur votre antenne pour parler de ce sujet. Il y a un autre sujet qui s'invite également, c'est le régime de retraite, qui va arriver en rupture de trésorerie au mois de mai, juin l'année prochaine. Ça concerne quand même 42 000 retraités. Et puis, il faut faire toutes les réformes qu'on n'a jamais pu faire dans notre pays, de manière profonde.
Mais oui, mais on n'arrive pas à les faire, justement. Et y a pas de pour l'instant, il n'y a pas de majorité au Congrès qui permette de les faire.
Si. Bah, justement, l'objectif des groupes de travail qui sont constitués par la mission interministérielle menée par Claire Durieux, c'est justement d'essayer de travailler sur ces réformes-là. Les groupes ont été constitués, les premières réunions vont se dérouler dès la semaine prochaine. Et on espère à partir de là, parce que tout le monde partage les constats, et on ne partage pas forcément la méthodologie, ou en tout cas les solutions à apporter à cette situation.
Est-ce que le rôle de l'État a été à la hauteur de ce que vous attendiez pour l'aide économique et sociale d'ailleurs ?
Pas vraiment. Moi, je suis un peu déçu de l'aide de l'État. La Calédonie est encore au sein de la République française, même si nous avons la compétence en termes d'économie et de fiscalité. On aurait souhaité que la Calédonie bénéficie de la solidarité nationale à un moment où on a une économie totalement à terre. C'est pas l'option qui a été choisie. Moi, je le regrette. Je rappelle quand même que la Calédonie a emprunté 50 milliards pour les crises Covid et qu'elle a emprunté cette année 120 milliards, ce qui fait la bagatelle de 170 milliards. On a des taux d'endettement qui dépassent l'ensemble des ratios des collectivités de la République. On aurait souhaité que la solidarité nationale joue. Ce n'est pas le cas. Les discussions ont été faites sur Bougival pour permettre de transformer les prêts en subventions. La France n'a pas souhaité nous donner suite à ces éléments de suite. J'ai entendu la ministre des Outre-mer au Perchoir hier parler de retour, en tout cas de refonte de l'économie sociale, d'apporter le soutien de la nation.
Et Sébastien Lecornu a parlé aujourd'hui d'un choc de confiance nécessaire pour la Calédonie.
Donc, oui. Bon, après ça, c'est des mots. Nous, on attend les actes. On verra, il y a des visios qui sont programmés avec la ministre, courant la semaine prochaine. On verra ce qu'elle nous dira à ce moment-là.
Question difficile, comment est-ce que vous voyez les prochains mois ? Vous pensez que le dialogue va être renoué, que Bougival va pouvoir se concrétiser, ou qu'il faut tourner la page de Bougival et chercher autre chose ? Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ?
Moi, je suis un éternel optimiste. J'espère toujours le mieux pour mon pays. Et donc j'espère que... D'ailleurs, c'est bizarre de le dire, mais Sébastien Lecornu a dit une phrase que je trouve bien. Il faut préférer son pays à son parti. Et préférer son pays à son parti, c'est d'accepter de dialoguer. Quand bien même on a des divergences les uns et les autres sur à peu près tous les sujets... Et c'est ça qui est beau dans notre pays, c'est que malgré tout ça, on arrive à se parler, qu'on arrive à construire ensemble. C'est le défi de la Calédonie depuis au moins Matignon. Et moi, j'y crois toujours, à la capacité, à la résilience des Calédoniens et des responsables politiques, capacité à se remettre autour de la table et à essayer de trouver ensemble une sortie de crise.
Même si vous pensez que le calendrier de Bougival, tel qu'il a été établi, ne pourra pas être respecté.
Bougival, c'est un compromis qui existe, qui est là. Il y a une instabilité nationale. Ce que je dis, c'est que la solution ne viendra pas de Paris. La solution, elle est calédonienne. Elle l'a toujours été. Elle sera encore demain.
Mila Kouloutoukoumouli, présidente de l'Éveil océanien, merci d'accepter votre invitation.
Merci, Elisabeth.